Bonsoir à tous. Il y en a qui croient que les êtres humains sont des animaux. Nous, c'est pas ce qu'on croit, c'est pas ce que la Bible enseigne. Pourquoi j'introduis là-dessus? Parce que la Bible est assez claire en ce qui concerne cette différence. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on lise en introduction deux versets dans le livre de la Genèse. Dieu, quand il a tout créé, il a toutes fait les choses belles. Et quand il a fait les animaux, il a associé une bénédiction. Et quand il a fait l'homme, il a associé une autre bénédiction. C'est intéressant de voir la différence, parce que s'il est vrai que nous ne sommes pas des animaux, on a des points communs, faut quand même le dire. Hein. Et finalement, on le retrouve aussi dans la bénédiction que Dieu donne. Genèse, chapitre 1er, verset 22. Quand Dieu créa les animaux, on lit ceci. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Ensuite, on voit au verset 26, en verset 25, on voit aussi que Dieu créait bien sûr les animaux sur la terre, et avec cette même bénédiction, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon leur espèce, et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 26, on en arrive à ce que Dieu dit à l'homme. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Et là, quand il marquait toute la terre, on peut comprendre tous les animaux de la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et là, il peut aussi être question de ce qui est insecte. Voilà, dans tout ce qui rampe à même le sol. Il y a les reptiles, bien sûr, mais il y a aussi tout ce qui est insecte aussi, bien sûr. Et ici, on voit une différence majeure. L'homme, il n'a pas simplement à être fécond et à se multiplier, il a pour rôle principal de dominer. Et ici se cache en filigrane quelque chose que Dieu veut que nous développions. L'homme est appelé à dominer, je dirais, sur l'animal qui est en lui. On doit, certes, la version littérale est tout à fait vraie, hein, bien sûr. Mais j'aimerais en venir sur ce que veut dire dominer. La définition du dictionnaire dit ceci, avoir la suprématie, exercer une puissance souveraine, exercer une emprise, une influence prépondérante. Être le plus marquant, le plus important, le plus nombreux, quand on domine par le nombre. Il y a un autre aspect de la domination, et là on va dire c'est plus géographique. Quand on dit qu'un village dans les Pyrénées est en hauteur, on dit qu'il domine sur la vallée. Il est plus haut, tout simplement. Dans la Bible, il y a des lois qui font que Dieu respecte notre propre choix. Aussi, quand on regarde les animaux, ils n'ont absolument aucun espoir. Ils vivent le temps qu'il leur est donné sur la terre, et après, ils meurent. Et c'est ainsi que s'enchaînent les générations d'animaux. L'être humain, lui, il a une destinée. Après, j'aimerais dire que si on se considère comme un animal, il y a de fortes chances, et ce n'est pas vraiment une chance, que notre sort soit le même que celui des animaux. Par conséquence même de notre propre choix. Si je me considère comme un être humain et que je prends en compte ce que Dieu dit au sujet des êtres humains, là ma destinée pourrait peut-être être différente. Si on regarde dans les chapitres 3 et 4 de la Genèse, on voit que, on va voir une chose, c'est que l'homme, de par sa nature, n'arrive pas à rentrer dans ce que Dieu demande. on va voir que dans le chapitre 3, Adam et Ève vont se laisser dominer par un serpent. Et alors qu'ils sont censés dominer dessus, c'est eux qui se retrouvent en position de dominer. Et ils vont obéir à la suggestion du serpent, qui est le diable, bien sûr. Donc on voit tout de suite le lien vers lequel je me dirige, hein. Au chapitre 4, c'est encore plus clair, parce que Dieu le dit, là c'est peut pas faire plus clair, au verset 7, Caïn est sur le point de commettre un grave accident, pas un accident, mais un péché, on peut le dire, et Dieu l'appelle et le met en garde, et il lui rappelle l'ordre qui relève de l'être humain. Si tu agis bien, tu le relèveras, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, son désir se porte vers toi, mais toi, domine-le. L'ordre n'a pas changé. Que va faire Caïn ? Il va dominer sur le péché qui est en lui ? Non. Il ne va pas dominer. La conclusion, elle est terrible. C'est qu'on s'aperçoit que l'homme est incapable de dominer sur le péché. L'homme est incapable de dominer sur sa propre nature qui le pousse à faire des choses qui déplaisent à Dieu. C'est pas étonnant quand on regarde le revers de la médaille. J'aimerais qu'on lise ensemble dans Galates au chapitre 5. Je dirais que tout simplement, c'est pas naturel. On est là devant un paradoxe, parce que Dieu nous demande quelque chose qui, quelque part, nous était pas possible. Galates, chapitre 5, au verset 22, c'est la liste des 9 fruits de l'Esprit. On va le lire. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Donc, on est tous d'accord que c'est un fruit de l'esprit. Avec un grand E, c'est l'esprit de Dieu. Même si on est appelé à avoir une certaine maîtrise de nous-mêmes, une maîtrise parfaite de nous-mêmes, on ne pourra l'avoir que grâce à l'esprit de Dieu qui agit en nous. J'aimerais poser la question, parce que des fois les valeurs s'inversent. Qui est-ce qui est faible et qui est fort? Je suis sujet à des moqueries, des insultes. C'est qui le faible, c'est qui le fort? C'est celui qui réagit et qui va se défendre vigoureusement? Ou c'est celui qui va les supporter sans rien dire? Lequel des deux demande le plus d'efforts? Quand on est des êtres humains normalement constitués, normalement, la logique veuille qu'on se défende. C'est plus naturel. Et finalement, quand on fait le choix de supporter sans rien dire, quelque part, on lutte contre quelque chose qui est à l'intérieur, qui nous pousse à vouloir nous justifier, qui nous pousse à vouloir nous défendre. Qui est le faible? Qui est le fort? On imagine tous ce que Ésaïe écrit au sujet de Jésus, qu'il s'est laissé insulter, il s'est laissé mépriser, il s'est laissé conduire là où il ne voulait pas aller. Et c'est là encore toute la force de caractère qu'il avait, parce que le Seigneur, en lui, n'avait même pas la volonté de vouloir répondre, de vouloir faire du mal, parce qu'il savait qu'il le faisait avec un but bien précis. C'est son amour qui le guidait ainsi jusqu'à la croix. Et on pouvait l'insulter, on pouvait le mépriser, on pouvait le faire souffrir. Son choix était, parce qu'il nous aimait, d'aller à la croix jusqu'au bout. Et à travers, entre guillemets, cette faiblesse, il y a là une grande, grande force qui se cache. J'aimerais quand même poser cette question aussi. Qu'est-il plus facile de faire? de se venger quand on nous a offensés ou de pardonner. Peut-être que ça nous touche un peu plus, cette question. Mais l'être naturel, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Il va vouloir se venger. Il va vouloir répondre. C'est facile de vouloir se venger. Il y a juste qu'à se laisser aller. Par contre, dans son cœur, mener ce combat qui va amener au pardon, ça c'est dur. Celui qui pardonne, c'est pas celui qui est faible. Celui qui pardonne, c'est celui qui est fort. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est ce qui va nous amener justement, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, à pouvoir ainsi bien nous comporter. Ce qui va nous amener à faire face à certaines situations. Et la maîtrise de soi, c'est tout simplement, c'est le dernier des fruits listés par Paul, c'est ce qui finalement répond à ce que Dieu avait demandé dès l'origine, à savoir que Dieu nous appelle à dominer, à se maîtriser. C'est ce qui répond à ce pourquoi l'homme a été créé. Et c'est ce qui fait qu'un homme est un homme, et c'est ce qui fait qu'un homme n'est pas un animal. Entre autres, j'aimerais qu'on lise ensemble un proverbe dans le chapitre 25 au verset 28 où il est question justement de la maîtrise de soi. Proverbe 25, 28. Je vais vous le lire dans deux versions différentes. Moi, j'ai la version qui est à la Louis II révisée. Et dans cette version, je lis ceci. Une ville forcée et sans muraille. Tel est l'homme, on pourrait rajouter la femme, qui n'est point maître de lui-même. Dans la version du Semeur, il est dit, qui ne sait pas se dominer est comme une ville démantelée qui n'a plus de rempart. Autrement dit, il n'y a pas un commandement qui nous dit « domine ». Il y a, je dirais, un conseil, une supplication. Si tu ne domines pas, tu es en danger. Quand Dieu nous dit cela, c'est pour notre bien. Quand Dieu nous appelle à dominer sur le péché, c'est parce qu'il nous aime. Et il sait très bien que si on laisse le péché dominer sur nous, on sera malheureux. Et on l'a chanté, Dieu nous aime tellement. Il ne veut pas nous voir malheureux. Il ne veut pas nous voir en prise avec des désirs de vengeance qui nous consument de l'intérieur et qui font qu'à l'intérieur, ça ne va plus du tout. Ce n'est pas son désir à Dieu. Si je laisse le péché me dominer, je ne peux être que malheureux et en danger. Et Dieu, s'il m'appelle à avoir ainsi cette maîtrise de moi-même, ce rempart quelque part, eh bien, c'est parce qu'il veut que je sois protégé. Une ville qui n'a plus de rempart, elle n'est plus protégée face aux ennemis. On l'a chanté, cette tour aux quatre vents, c'est quoi? C'est le nom du Seigneur Jésus. Ces remparts, c'est un peu la présence du Seigneur. C'est le Seigneur Jésus dans nos vies qui protège les villes que nous sommes. S'il n'y a plus Jésus-Christ dans nos vies, il n'y a plus de rempart et il n'y a plus de maîtrise de soi. La maîtrise de moi-même, c'est un fruit de l'esprit et ce n'est que par la présence du Seigneur Jésus en moi que je vais pouvoir développer ce fruit de l'esprit. La palisse le dirait peut-être, mais c'est important de le dire. En attendant, j'aimerais qu'on puisse quand même parler des dangers et donner quelques exemples. L'homme qui se laisse aller à ses mauvais penchants, donc qui va pécher, il va vers la mort. C'est ce que la Bible dit. C'est le salaire du péché. La mort, elle est au bout de celui qui se laisse aller. Alors j'ai répertorié 4 catégories. Est-ce que, par exemple, j'ai des problèmes de caractère? Je me laisse aller, je me mets en colère, je ne me maîtrise pas. Je vais plus loin que la colère, je commence à avoir de la violence. Ça peut être aussi tout simplement des impatiences. Je suis tellement impatient de ceci ou de cela qu'à un moment donné, je supporte plus, je me maîtrise plus et je vais essayer de tout faire pour avoir ce qui me manque. Ça amène à la disette. Un autre proverbe le dit. Est-ce que j'ai des problèmes avec mes propres paroles? Vous savez, les paroles qu'on dit... Moi, j'aime bien cette affaire qui nous dit qu'il nous faut 2 ou 3 ans pour apprendre à parler et toute une vie pour apprendre à se taire. Combien de paroles regrettables prononçons-nous? Des paroles non maîtrisées. Que ce soit des mensonges, des commérages. Tu connais la dernière, tu sais pas ce qui lui est arrivé. Moi, je le plains. Vu ce qui lui est arrivé devant Dieu, je veux pas être à sa place. Des fois, je crois qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Ce n'est pas des fois, c'est toujours d'ailleurs. Les médisances. La médisance, c'est quand on dit, on parle de quelque chose qui est arrivé à quelqu'un, entre guillemets, c'est pas quelque chose qui honore la personne. Alors des fois, ça peut être utile. Parce qu'on a besoin, entre par exemple des responsables, de discuter de certaines choses pour évaluer les situations. Mais il y a des fois, c'est inutile. Et quand c'est inutile, ça s'appelle de la médisance, parce que ça sert à rien. Donc si ça sert à rien, pourquoi tu le dis ? Quand ça ne sert pas à quelque chose, que ça ne sert pas à l'édification, si on, des fois il peut nous arriver de discuter de certains comportements, c'est parce qu'on a besoin d'être une aide en tant que responsable. On a besoin d'apporter, on a besoin d'édifier. Et notre souci, c'est d'édifier le corps de Christ. Et quand la Bible nous enseigne des fois à reprendre des personnes, à aller conseiller d'autres personnes, c'est bien parce que, à un moment donné, on est amené à évaluer des situations et à en discuter. Ce n'est pas de la médisance parce que c'est utile. Le but, c'est de faire en sorte que l'Église se développe et soit édifiée et que chacun puisse être à sa place, comme on le dit aussi ce chant, « J'ai trouvé ma place dans la maison de Dieu ». Que chacun soit à sa place et puisse être heureux là où Dieu l'a placé. Est-ce que je dis des grossièretés? Combien de personnes dans l'Église ont un langage qui convient et dès qu'elles franchissent le seuil de cette maison, qui sont capables de dire des grossièretés, des blagues douteuses, etc. Et j'en passe. Cette langue qui n'est pas maîtrisée. Est-ce que j'ai des problèmes de moralité? Je suis léger avec les femmes, avec les hommes. Je suis prêt à aller vers l'adultère. Ça ne m'emporte pas beaucoup. Je suis paresseux. Travailler, ça m'embête. Je préfère toucher les allocs, c'est plus simple. Mais la Bible dit que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. On est appelé à travailler et pas à être des professionnels de la recherche d'aide. Peut-être pour certains, c'est un travail, mais bon, il y a peut-être plus gratifiant. Est-ce que j'ai des problèmes de foi ? C'est peut-être un peu... On pourrait se dire que ce n'est pas de la maîtrise de soi, ça. Mais des fois, si. Quand je suis poussé à m'inquiéter sans cesse, et que j'ai un verset sous les yeux qui me dit « Ne vous inquiétez de rien », et qu'à un moment donné, je ne suis pas capable de m'appuyer dessus, c'est quelque part, j'arrive pas à me maîtriser, j'arrive pas à m'appuyer sur la parole de Dieu. Quand à un moment donné, je suis conseillé par des responsables et que je n'écoute pas, Je n'arrive pas à mettre en pratique ce qui m'est conseillé. Malgré le fait même que je sois d'accord que les conseils qui m'aient été donnés soient bons. Quelque part, il y a un problème. J'aimerais donner 2-3 exemples bibliques. On connaît l'histoire de Saül. Samuel lui avait dit, voilà, il va y avoir la guerre avec les Philistins, tu vas m'attendre 7 jours. Et dans le livre de Samuel, on lit quelque chose, c'est que Samuel, il a attendu 7 jours, mais le 7e jour, il voyait que Samuel, il n'arrivait pas. Alors, c'est comme ça qu'il explique à Samuel, écoute, Samuel, tu n'arrivais pas, je me suis fait violence, et j'ai fait le sacrifice à ta place. Il a désobéi. Juste après, Samuel est arrivé. Il aurait attendu 2 minutes de plus, il n'aurait pas désobéi. Il s'est fait violence. Saül, il a été entraîné parce qu'il n'a pas réussi à se contenir. Et peut-être il avait de bonnes raisons de s'inquiéter. Il y avait les Philistins qui étaient tout autour, il y avait son peuple qui s'impatientait, son armée qui s'impatientait, peut-être que certains commençaient à s'en aller. Bref, il n'avait pas dû entendre l'histoire de Gédéon où l'armée a été réduite à 300 et qu'ils avaient remporté la victoire. Il ne devait pas s'en rappeler de celle-là. Mais il ne faisait pas confiance à Dieu. Et il n'a pas supporté. Il n'a pas supporté la situation. Il n'a pas supporté la responsabilité. Et à un moment donné, Saül ne s'est pas maîtrisé. Enfin, il a fait le choix de désobéir. Est-ce que ça peut rentrer dans le cadre de la maîtrise de soi? Je pense quand même. S'il avait réfléchi un peu plus, s'il avait mesuré l'importance que de l'obéissance aux yeux de Dieu, je pense qu'il aurait peut-être agi différemment. On connaît aussi l'exemple de David. David, c'est la paresse au départ qui l'a fait descendre. La finalité de Saül, on la connaît. Saül, il est parti de mal en pire. Le sort final de Saül, c'est le suicide. Quand on voit l'escalade vers laquelle ça peut nous mener de vouloir tout faire par nous-mêmes, eh bien, on en a des exemples. David, lui, il s'est fait avoir. Il a été paresseux, entre guillemets. Il devait les combattre. Il n'est pas allé. Et ainsi, ça a commencé par de la paresse. Ça a continué avec de la négligence. Ensuite, ses yeux se sont posés sur une jeune fille, etc., etc. On connaît sa chute aussi à David, et ça lui a coûté cher. Il devait aller travailler, et il n'y est pas allé. Il y a eu une simple fissure dans la muraille de David, et le mal s'est engouffré. C'était comme s'il n'y avait plus de rempart. David n'était plus protégé avec une seule faille. Et de cette seule faille, David est tombé bien bas. Grâce au Seigneur, lui s'est repenti. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. C'est ce qu'on va voir maintenant. David, il ne s'est pas maîtrisé. J'aurais pu prendre aussi des exemples de personnes qui ont trop parlé, des personnes qui se mettaient en colère, des personnes qui... On en a des tas d'exemples dans la parole de personnes qui voulaient dominer par elles-mêmes sur le péché. Et à chaque fois, on le constate, c'est que l'essai n'est jamais transformé. Parce que l'homme est incapable. J'aimerais qu'on puisse afficher juste la première strophe du dernier chant. Vous avez vu qu'il est question de construire. Ce qui m'était cher pour construire ma vie, utile et précieux, selon ce monde. Ce que je pensais pour moi être de bons matériaux, pour faire de beaux remparts. Ce qui était un gain pour moi, n'a plus de valeur. Et ça ne me sert à rien. Pourquoi ? Je me suis rendu compte que ces matériaux que j'estimais précieux, c'est que du bois et de la paille. Et le bois et la paille, ça flambe. Ça sert à rien. C'est pas ça qui protège. Et si, dans ta vie, tu veux construire cette muraille, Tu veux essayer de te maîtriser par toi-même. Tu vas choisir des matériaux qui te seront utiles peut-être. Tu vas faire du coaching à gauche pour apprendre à gérer le stress. Tu vas faire du coaching à droite pour apprendre à être patient. Enfin bref, on a tous nos trucs et astuces pour essayer d'améliorer par nous-mêmes ceci ou cela. Mais on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. Parce que notre nature est ce qu'elle est. La seule muraille qui vaille, c'est le Seigneur Jésus. Et il n'y a que par Jésus-Christ que nous pouvons avoir une pleine maîtrise sur le péché qui nous domine. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble ce passage dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Vous allez voir que par rapport à la définition du dictionnaire, il y a quelque chose de très simple par rapport à ce problème de maîtrise de soi. Je vous lis les versets 19 à 23 dans la version du Semeur. Chapitre 1er de la lettre aux Éphésiens. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir en Christ lorsqu'il l'a ressuscité et l'a fait siéger à sa droite, dans le monde céleste. Donc en position dominante, hein, par rapport à nous. Là, Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination. Donc autrement dit, tout ce qui peut dominer un homme, il y en a un qui est au-dessus. Et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds. Et Christ, qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Je ne sais pas si on réalise un peu. L'homme, je dirais, il est là. On a vu que le péché domine sur nous. Donc le péché, il est là. Mais Christ, il est là parce qu'il est au-dessus. Le péché et toute domination sont sous ses pieds. Donc si je suis là et que je me retrouve en Christ, je suis où ? Je suis au-dessus. Donc tout ce qui domine sur moi se retrouve où ? Sous mes pieds. Être en Christ, c'est ça le plus important. C'est ça la vraie muraille. C'est ça qui nous permettra de développer ce fruit de l'esprit qu'est la maîtrise de soi. On va essayer de travailler au niveau du fruit alors qu'il faut travailler au niveau de notre identité en Christ. Parce que si je suis assis à côté de Christ, ce qui est sous ses pieds est aussi sous mes pieds. Et par la foi, je peux dominer. Je peux résister. J'en ai le pouvoir si je suis assis à ses côtés. Maintenant, la question, c'est où est-ce que je suis ? Et si je n'y suis pas, comment je fais pour y aller, assis à côté de lui ? Première chose, bien sûr, c'est ce qui est écrit derrière. Être réconcilié avec Dieu. C'est Jésus qui a fait tout le travail. C'est lui qui nous a rapprochés de Dieu. C'est lui qui est venu, qui lui est descendu. Lui, il est descendu, marcher parmi nous. Il est venu se placer en dessous. Et malgré le péché qui était au-dessus de lui quand il était parmi nous, il n'a pas bronché. Et il est resté sans péché, avec pourtant ce péché qui était au-dessus de lui, qui était comme un dominateur. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans jamais commettre de péché. Il a été en dessous, il a été sous une certaine domination, et pourtant Jésus n'a jamais péché. Il a été dans un corps semblable à nous. Et il n'a jamais péché. Jésus est mort à la croix. Il a fait le choix d'aller jusqu'à la croix pour venir nous chercher. Il est descendu jusqu'à nous pour venir nous chercher et nous amener à côté de lui. Parce qu'il sait que c'est quand nous sommes à ses côtés que nous pouvons avoir la victoire sur le diable qui essaie de nous faire tomber. Il est descendu pour nous faire monter. Il nous a précédés, mais par la foi, il nous est possible d'être vainqueurs. Par la foi, il nous est possible d'obtenir cette place. Il faut être réconcilié avec Dieu. Il faut croire en l'efficacité de son œuvre à la croix du calvaire. Il faut croire que le sang qui a coulé sur la croix, c'est le sang du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi parce qu'il m'aimait. Si je le crois de tout mon cœur, que je m'approche de Dieu, que je lui demande pardon, alors je peux obtenir la réconciliation d'avec Dieu. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? J'aimerais citer ce texte quand la foule demande à Pierre justement cette même question. Que ferons-nous? L'apôtre Pierre est très très clair. Dans selon les versions, on a « repentez-vous ». D'autres versions disent « changez radicalement ». Même si ce n'est pas le mot « repentir », j'aime bien cette version aussi. Ça montre que se convertir, c'est pas saupoudrer un peu de Jésus dans notre vie et se dire toujours ben, « je mets un petit peu de religion, je vais venir un petit peu aux réunions, mais en gros je change pas grand-chose de ma vie ». Il s'agit de changer radicalement. C'est à l'intérieur, doit se passer quelque chose. À l'intérieur, je dois vraiment prendre une décision. Prendre la décision de faire demi-tour. J'essaye de m'en sortir par moi-même, il va falloir que j'apprenne à m'en sortir en comptant sur lui. Je connais des liens peut-être qui sont sur ma vie. Changer radicalement, on peut prendre des exemples d'addiction par exemple, où on ne se maîtrise plus. Il y en a qui sont addicts à la grossièreté, aux mauvaises blagues. C'est ça plus fort qu'eux, ça sort comme ça. C'est des choses peut-être où ce n'est pas de l'alcool ou du tabac, mais quelque part, il y a un petit côté de dépendance aussi. Mais ça peut être l'alcool, ça peut être le tabac. Je veux être secouru parce que je bois et je suis moi-même dégoûté de ce que je suis. J'en ai honte. Le jour où je demande à Dieu du secours, quel est le réflexe à faire? Me débarrasser de tout ce qui va m'amener à penser. C'est pas que la bouteille, c'est les verres qui peut-être vont m'amener à me faire penser que je vais devoir acheter ceci ou cela, ça va être les tire-bouchons, ça va être tout. Le moins il y a de moyens de me faire penser, le mieux c'est. Celui qui va être radical dans son choix, eh bien il va être approuvé par Dieu. Et Dieu va honorer cet acte de foi. C'est pas le tout de demander pardon. Se convertir, c'est avoir un changement radical. Celui qui est sans cesse en proie aux inquiétudes, aux tourments, qui n'arrive pas à compter sur la parole, à mesurer, à s'appuyer dessus. Celui qui est toujours à avoir besoin, qui est toujours en train de se battre. Il pourra lire ce verset dans le psaume 131, verset 2. C'est dans la version de la Colombe qu'on le trouve écrit comme ça. « J'ai imposé le calme et le silence à mon âme. » Quand ça commence à chahuter là-haut, eh bien, à un moment donné, il faut dire stop. Et c'est ce que David faisait. « J'ai imposé le calme. » J'ai lu un texte qui me dit « Ne t'inquiète pas, ça suffit. » Je refuse de m'inquiéter parce que c'est écrit. À un moment donné, ça demande une certaine violence dans le comportement. On ne peut pas s'empêcher de s'inquiéter, mais à un moment donné, quand on lit le texte, quand on lit la parole, il faut savoir s'appuyer dessus. Quand on reçoit des conseils, il faut savoir s'appuyer dessus. Si je me laisse aller à ces inquiétudes, à ces tourments et que je les laisse tourner dans ma tête, quelque part, c'est que je n'arrive pas à me maîtriser. Et la solution, elle ne sera pas par mes propres forces. Il s'agit de recevoir le salut et la délivrance que Jésus me donne, cette muraille, par la foi. Seigneur, c'est écrit que je peux imposer le silence, que je peux recevoir la paix, c'est écrit, tu veux me la donner. Tu as écrit que je ne devais pas m'inquiéter. Seigneur, j'y crois. Je te fais confiance. C'est un acte de foi. Et quand on fait cet acte de foi, qu'on regarde au Seigneur, qu'on lui dit, Seigneur, c'est écrit, alors je le mets en pratique. Le Seigneur, il nous aide, il nous protège. Et c'est ainsi qu'on va réussir à se maîtriser, parce que derrière, on va faire aussi des expériences qui vont fortifier notre foi. Et on va apprendre à vérifier que Dieu est fidèle, que Dieu nous aime, que Dieu veut prendre soin de chacun d'entre nous. Dieu n'est pas en reste, il s'occupe de chacun d'entre nous. Et si c'est écrit de ne pas nous inquiéter, c'est parce qu'on n'en a pas besoin, parce que lui s'occupe de nous. Il faut simplement le croire et se positionner à ses côtés. Seigneur, j'ai lu cette parole. Eh bien, je te fais confiance, je le reçois par la foi. Là, je suis en train de m'élever à ses côtés, parce que je considère sa parole comme le maître mot de ma vie. C'est sa parole qui règne sur ma vie. Quand je dis qu'il ne faut pas s'inquiéter, eh bien, je m'y applique. Quand je lis quelque chose peut-être de plus simple, qu'il ne faut pas mentir, eh bien, je m'y applique. Quand je lis qu'aucune parole grossière ne sorte de votre bouche, eh bien, je m'y applique. Je le peux parce que c'est par la foi que je le fais. Je ne le fais pas par mes propres forces. À chaque fois que je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que la parole de Dieu me montre quelque chose, Seigneur, aide-moi. Tu vois ma faiblesse. Tu vois, je n'arrive pas à me maîtriser. Quand je suis avec les collègues de travail, je ne peux pas m'empêcher de dire des gros mots. Seigneur, aide-moi. Est-ce qu'il y a ce désir intérieur de vouloir changer ou pas? C'est le vrai moteur de ce qui va nous amener au même niveau que le Seigneur. C'est une grâce, hein, que le Seigneur puisse nous dire « Viens et assieds-toi à ma droite ». Ensuite, il y a un dernier conseil. C'est que pour que la muraille soit solide, il ne faut pas redescendre. C'est tout bête. Hein. Mais regardez avec moi ce que Jésus dit lui-même. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, s'il l'a dit, c'est que je crois qu'il est possible qu'on redescende. Sinon, il ne l'aurait pas dit. Jean 15, verset 4. Demeurez en moi, comme moi en vous. Je pense que je pourrais m'arrêter là, la lecture. On va lire la fin du verset quand même. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus si vous ne demeurez en moi. C'est quelque chose de très important et c'est ce qui est résumé dans le dernier chant que nous avons chanté. C'est qu'en fait, développer un fruit comme la maîtrise de soi, c'est un faux problème en fait. On n'a pas à s'en soucier du fruit qu'on porte. Que ce soit la paix, que ce soit la patience, que ce soit la joie. C'est des fruits qui viennent naturellement. Quand ma communion avec Dieu est au beau fixe, quand dans ma vie spirituelle, je m'applique à recevoir la vie qu'il me donne. C'est ainsi que je demeure en Jésus-Christ. Et si je demeure en Jésus-Christ, eh bien ces fruits qui sont les fruits de l'Esprit vont se développer d'eux-mêmes. Et mes désirs vont changer. Si je développe cette vie intérieure que de vouloir connaître Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Vouloir connaître Dieu. Au fur et à mesure qu'on s'applique à le connaître, il va nous montrer qui il est. Il va me montrer qui je dois être, qui je suis. Si je suis enfant de Dieu, je dois lui ressembler. Un enfant ressemble à ses parents, c'est logique. Si je suis enfant de Dieu, je dois ressembler à celui qui m'a fait renaître. La maîtrise de soi, ça en fait partie. Heureusement d'ailleurs que Dieu l'a lui-même, cette maîtrise de lui-même, parce que sinon, je ne sais pas si on serait là pour parler ce soir. Dieu se contient, Dieu se maîtrise, et il sait agir quand il faut, il sait parler quand il faut, il sait intervenir quand il faut, toujours au moment opportun. Et nous qui sommes ses enfants, c'est quelque chose qui nous est possible de développer, mais ce n'est pas là-dessus qu'il faut travailler. Parce qu'on va en arriver à faire des propres efforts. Ce qu'il nous faut travailler, c'est notre communion avec Dieu. Vous allez me dire, mais c'est toujours là-dessus que vous revenez. Mais il n'y a pas de secret. C'est ma vie avec Dieu. Est-ce que j'ai une communion avec Dieu? Est-ce que je reçois sa vie? Est-ce que je passe du temps avec lui? Est-ce que je lis sa parole? Est-ce que je fais des actes de foi? Parce que la vie du chrétien, c'est ça aussi. C'est l'exercice spirituel qui nous fortifie, qui nous fait du bien, qui fait du bien aux frères, aux sœurs. Les actes de foi, attention, ce n'est pas des actes de témérité. Ça ne sort pas du chapeau. Ce n'est pas des œuvres qu'on nous feront, des œuvres folles qui nous viennent de nulle part. Un vrai acte de foi, c'est Dieu qui nous dit de faire quelque chose. Donc ça veut dire que je l'aurais reçu auparavant, dans un temps où j'aurais été en communion avec lui, que ce soit par la parole de Dieu, que ce soit par des conseils que j'aurais pu recevoir. Le Seigneur, par son esprit, va me faire ressentir quelle est sa volonté. Et vient la question, est-ce que j'obéis, est-ce que j'obéis pas? Et si j'obéis, ma foi se fortifie parce que Dieu va voir. On le constate tous, on l'a tous déjà constaté, que Dieu est fidèle. Et quand on fait des actes de foi, Dieu, il approuve nos actes de foi. Et notre foi se fortifie. On se développe, les fruits de l'esprit se développent naturellement. Dans quel état est ma communion avec Dieu? J'aimerais qu'on se recueille quelques instants et on va demander au Seigneur qu'il nous aide. Il y a une formidable destinée à celui qui apprend à se dominer. Celui qui apprend à se dominer et qui développe ce fruit de l'esprit, que la maîtrise de lui-même, il ne pourra être qu'heureux. Parce qu'il pourra, il sera en mesure de vivre selon la parole. De ne pas s'emporter dans la colère, d'être patient, de supporter les souffrances, d'être diligent, d'œuvrer au service du Seigneur, d'exercer des actes de foi. La vraie vie du chrétien, finalement, elle s'obtient par la communion avec Dieu. Seigneur notre Dieu, nous sommes tous rassemblés devant toi, nous sommes tous devant toi. Et alors que nous voyons, Seigneur, que tu veux faire de nous des êtres humains qui se dominent, qui peuvent dominer le mal, Seigneur, nous réalisons que nous avons besoin d'être protégés. Seigneur, je te prie pour ceux et celles pour qui la muraille est tombée, ceux qui ne se soucient plus de toi, même peut-être ayant fait des expériences avec toi, qui prennent à la légère la vie chrétienne. Ces personnes peut-être qui ont abandonné les changements radicaux qu'ils avaient pris. Des personnes qui se sont laissées aller et qui aujourd'hui sont en souffrance, sont malheureuses de leur propre situation. Des frères ou des sœurs qui n'arrivent pas à ne pas s'inquiéter, qui n'arrivent pas à se sortir des tourments intérieurs, qui n'arrivent pas à s'appuyer sur ta parole. Seigneur, je te prie pour que tu puisses développer en chacun d'entre nous, en chacun de ceux qui sont là ce soir. Vraiment, Seigneur, nous te le demandons et nous voulons nous associer devant toi pour que tu nous aides à rebâtir cette muraille, à rebâtir cette muraille, que ta vie coule en nous, que nous puissions te remettre à la première place. Et c'est ainsi que nous pourrons aussi dire, comme le psalmiste, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, c'est ce que nous désirons, être protégés de tous ces dangers, être protégés du péché qui nous environne. Seigneur, la solution, elle est en toi et en toi seul. Seigneur notre Dieu, nous te demandons ta grâce et que par la foi, tu nous aides chacun à ne pas nous battre avec nous-mêmes, à ne pas essayer de tenter par nous-mêmes de nous développer, mais à compter uniquement sur toi et ta grâce seule. Seigneur notre Dieu, aide-nous par la foi à compter sur toi. Te rendons grâce pour toutes choses. Amen.